stations de service, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Bonjour, ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 29 mars 2024. À l'aube de la longue fin de semaine de Pâques, la Société de l'assurance automobile du Québec désire appeler à tous les usagers de la route de se déplacer de façon sécuritaire. En 2022, durant le long congé de Pâques, on comptait sur les routes du Québec 167 accidents avec dommages corporels, causant 6 décès et 16 personnes blessées gravement, pour un total de 212 victimes. Les principales causes d'accidents sur les routes du Québec demeurent la vitesse, la conduite avec les facultés affaiblies, les distractions, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents. À l'occasion du long congé pascal, la Ville de Québec vous rappelle que du vendredi 29 mars au lundi 1er avril, certains services demeureront accessibles alors que d'autres seront fermés. Alors, tous les bureaux de la Ville sont fermés. Les services essentiels comme la police et la protection contre l'incendie seront maintenus jour et nuit. La collecte des ordures et des matières recyclables sera maintenue selon l'horaire habituel. Pour ce qui est des stationnements dans la rue devant les bornes à payage, les dimanches 31 mars et lundi 1er avril, ce sera gratuit. Du côté des autobus, le vendredi 29 mars, c'est l'horaire du dimanche, samedi le 30 mars et dimanche le 31 mars, c'est l'horaire habituel, et le lundi, l'horaire du dimanche. Demain, on se lève tôt pour aller jouer dehors dans le cadre de la classique Alex Harvey. Cet événement de ski de fond en style libre s'adresse au grand public qui regroupe des skieurs de tous les calibres et de toutes les catégories d'âge. Le Centre national d'entraînement Pierre Harvey, établi depuis plus de 25 ans au Mont-Sainte-Anne à Saint-Féréol-les-Neiges, organise cette journée. C'est donc demain le 30 mars à partir de 8h30 et pour plus d'informations, on visite le www.classicalexharveytoutenunmot.com. C'est un grand pan de l'histoire du quartier Saint-Jean-Baptiste qui se termine demain soir au Foubar. Claudie et Lily vous invitent à festoyer avec elles une dernière fois à titre de copropriétaires du Foubar. Elles ont poursuivi avec fierté le travail de leurs prédécesseurs et ainsi permis à cette institution de célébrer ses 40 ans d'existence. C'est maintenant à leur tour de passer le flambeau à de nouveaux proprios. Donc ce samedi le 30 mars 2024 à partir de 16h et c'est au 525 rue Saint-Jean à Québec. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. Thank you.
Mais tant que nous restons plongés dans les livres, aussi choisis et classiques soient-ils, et ne lisons que certaines langues écrites particulières qui ne sont elles-mêmes que des dialectes provinciaux, nous courons le risque d'oublier la langue que toutes les choses et tous les événements parlent sans aucune métaphore. La seule qui soit profuse, la langue de référence. Aucune méthode ni discipline ne peut rendre caduque la nécessité d'être perpétuellement en alerte. Que vaut un cours d'histoire ou de philosophie ou de poésie, aussi soigneusement choisi soit-il? Que valent la meilleure compagnie ou les plus admirables des habitudes de vie comparées à la discipline qui consiste à s'astreindre, à toujours regarder ce qu'il y a à voir? Serez-vous un lecteur, un simple étudiant ou serez-vous un voyant? Lisez votre destin, voyez ce qu'il y a devant vous et marchez vers l'avenir. Le premier été, je ne lus aucun livre. Je sarclai mes haricots. Que dis-je? Je fis souvent mieux que ça. Il y eut des moments où je ne pouvais me permettre de sacrifier l'état de l'instant présent à aucun type de travail, qu'il fût intellectuel ou manuel. J'aime vivre ma vie avec beaucoup de marge. Parfois, par un matin d'été, après avoir pris mon bain quotidien, je m'essayais sur le seuil ensoleillé de ma porte et y restais de l'aube jusqu'au midi, plongé dans ma rêverie, parmi les pins, les carriers, les sumacs, dans une quiétude et une solitude que rien ne venait troubler, tandis que les oiseaux chantaient ou voltaient furtivement à travers la maison, jusqu'à ce que le soleil tombant par ma fenêtre occidentale ou le bruit du chariot de quelques voyageurs sur la lointaine grande route me rappelait le passage du temps. Pendant ces moments-là, je grandissais comme le maïs. À vue d'œil, et ces moments étaient bien plus valables qu'eût jamais pu l'être le résultat d'aucun labeur manuel. Ils ne venaient pas se soustraire à ma vie, mais au contraire s'y ajouter comme un bonus incroyablement riche en sus de mon allocation de base. Je comprenais ce que les Orientaux entendent par contemplation et oubli des travaux. Pour l'essentiel, je ne me souciais pas du passage des heures. Le jour progressait comme pour éclairer un de mes labeurs. Le matin était là, puis, ô miracle, c'était déjà le soir et rien de mémorable n'avait été accompli. Au lieu de chanter comme les oiseaux, je souriais devant ma perpétuelle bonne fortune. Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va parler de philosophie amérindienne des Premières Nations. On aura comme invité Mme Nicole Obam-Sawin, qui est une Amérindienne de la nation Abénaki et aussi anthropologue. Alors, elle va un peu se présenter. Et on va parler de philosophie amérindienne en lien avec les animaux, le lien qu'on a avec les animaux, que je trouve un peu, c'est comme un peu l'angle mort, je trouve, de la philosophie occidentale. Alors, on va voir un autre point de vue, d'une philosophie qui est plus proche de la nature, disons. Mais avant d'aller avec Mme Obam-Sawin, petite revue de presse, petite revue de lecture de cette semaine. On a en kiosque le 1. C'est un journal qui s'appelle le 1 Hebdo. Et c'est un numéro double. Il y a deux numéros, en fait. C'est dans un. Le 1 sur le wokisme. Mais l'autre qui m'intéresse plus, c'est sur l'eau. L'eau en partage qui est sorti, c'est un journal français qui est sorti pour la Journée mondiale de l'eau qui était la semaine dernière, le 22 mars. Alors, c'est un petit journal que j'aime bien, que je vous recommande, qui est en kiosque. Puis, je vous parle de ça aussi parce que peut-être dans la semaine prochaine, en tout cas dans les semaines qui viennent, on va faire une émission sur l'eau. Je voudrais avoir une entrevue avec quelqu'un de haut secours. On va parler le problème de l'accès à l'eau, qui est un problème mondial majeur. En tout cas, voilà, c'est le journal Le 1 Hebdo qui est en kiosque. On a aussi le dernier Philosophie Magazine qui vient d'arriver en kiosque. Qui porte sur la violence. Que peut-on opposer à la violence? Il vient d'arriver, donc je viens d'en prendre connaissance. J'ai pas eu le temps de le lire de façon approfondie. Mais il y a un article qui attire mon attention. C'est L'homme qui veut changer le futur. C'est un auteur de science-fiction qui s'appelle Kim Stanley Robinson. Et lui... s'intéresse beaucoup, il est préoccupé là, par l'avenir, notre avenir écologique, on pourrait dire. L'article intéressant, il dit la COP qui s'est achevée en décembre aux Émirats arabes unis a distribué plus de 2500 accréditations aux prometteurs des énergies fossiles. Son président, Sultan Al-Jaber, a déclaré « Montrez-moi la feuille de route d'une sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement socio-économique sans renvoyer le monde à l'âge des cavernes. » Bref, c'est pas trop encourageant qu'est-ce qui se passe à la COP. Monsieur Robinson, il dit « Le processus de la COP fonctionne selon ses propres règles, indépendamment des pays qui l'accueillent. Deux règles sont importantes à cet égard. » La déclaration finale doit être approuvée par chaque année par toutes les parties au Congrès et chaque année encore, le Congrès est tenu d'augmenter et d'améliorer ses promesses en matière de lutte contre les changements climatiques. Ces deux principes sont toujours en vigueur et des progrès substantiels ont été réalisés dans l'extension des promesses faites par les membres de la COP28. Je suis sûr qu'il en sera de même à la COP29. Bien sûr, le contexte est important, mais il est gigantesque. C'est l'histoire du monde elle-même à ce stade. Chaque année, les réunions de COP servent à attirer l'attention sur le réchauffement climatique, mettant l'accent sur les progrès et les obstacles, ainsi que sur les contributions des différents pays. En tout cas, là, je vous lirai pas l'article au complet, mais il y a plusieurs réflexions intéressantes dans cet article-là sur... finalement, là, la réalité qui nous attend là, si on ne fait rien. En tout cas, je vous recommande. C'est dans le dernier Philosophie Magazine, L'homme qui veut changer le futur. Quelques articles dans Le Devoir aussi qui ont retenu mon attention. Dans Le Devoir d'hier, jeudi, encore une fois, on parle de l'éclipse. Qui s'en vient le 8 avril. Et je vous recommande cet article-là qui est intéressant. Certaines lunettes vendues au Québec soulèvent des inquiétudes. Un expert doute de la conformité d'un modèle vendu dans certains Canadian Tire. Alors, il faut faire attention. La Fédération des astronomes amateurs du Québec s'inquiète au sujet de la sécurité de certaines lunettes pour l'éclipse vendue au soleil, vendue au Québec, notamment dans certains magasins. On dit que certaines d'entre elles n'ont probablement pas été certifiées conformes à la norme ISO, 12-302. C'est cette norme qui est recommandée pour protéger ses yeux de potentiels dommages causés par le soleil. L'étiquetage ne respecte pas du tout les exigences d'un appareil certifié. Alors, dans l'article, on donne des tests qu'on peut faire. On peut tester nos lunettes avant pour voir si vraiment là, elles nous protégeront. Puis aussi, vérifier. Il faut les tester avant pour vérifier. Ça se peut qu'il y ait un défaut à la lunette, si elle est percée ou quelque chose comme ça. Alors, c'est dans le devoir de jeudi d'hier, 28 mars, certaines lunettes vendues au Québec soulèvent des inquiétudes. Un article dans le devoir de mardi de Jean Nollet, qui était ici, là, on a eu une entrevue dernièrement, qui est allé à la COP. C'est un expert là, en marché du carbone. Puis, c'est un article, une réflexion sur où on en est dans le monde sur les marchés du carbone. Les marchés du carbone à la croisée des chemins. Il n'est pas facile de résumer le contenu de la conférence annuelle de North American Carbon World, où se sont déroulées des dizaines de conférences sur 3 jours à San Francisco. Néanmoins, à mes yeux, un élément ressort en particulier sur une tension fondamentale sur les marchés du carbone devant l'urgence climatique. D'un côté, on trouve ceux qui mettent l'accent sur la nécessité nécessaire grande rigueur dans la comptabilisation des réductions des gaz à effet de serre pouvant être reconnues. De l'autre, ceux qui préfèrent mettre l'accent sur l'urgence d'agir et refusent de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Un article intéressant pour ceux qui s'intéressent au marché de carbone dans le devoir de mardi, les marchés du carbone à la croisée des chemins de Jean Nollet, qui en passant est aussi fondateur du Cohabitat de Neuville. Et avec des Amis de la Terre, on va organiser une visite au Cohabitat de Neuville pour ceux qui s'intéressent. Ça va être vous allez trouver les infos sur le site des Amis de la Terre, mais il faudra s'inscrire parce qu'on aura seulement un nombre limité de participants qui pourront venir à la visite. Deux autres articles dans le devoir d'hier. Encore une fois, on parle de Northvolt, le projet là, d'usine de batterie. Dans le devoir de lundi 25 mars, le projet de Northvolt ne respecterait pas l'accord mondial pour la biodiversité. Deux experts estiment que le développement d'usines va à l'encontre des cibles de l'entente signée à Montréal en 2022 et appuyée par Québec et Ottawa. En tout cas, on a de la difficulté avec le projet, là, au point de vue environnemental. La façon de développer le projet de Northvolt contrevient à des cibles inscrites dans le cadre mondial de la protection pour la protection de la biodiversité signé à Montréal en 2022, estiment deux experts consultés par le Devoir. Les gouvernements du Québec et du Canada se sont engagés à respecter cette entente conçue pour freiner le déclin du vivant sur Terre. Le cadre mondial de la biodiversité de Kunming, Montréal, a été adopté à Montréal en décembre 2022 lors de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité, COP15. Cet accord, issu de longues négociations, comporte 23 cibles élaborées pour encadrer l'action des États dans la lutte contre l'effritement de la vie sur la planète, considérée comme une crise aussi grave que les dérèglements climatiques. C'est dans le devoir de lundi dernier. Puis finalement, dernier article qui a attiré mon attention cette semaine, c'est toujours dans le devoir de lundi dernier, « La Terre a besoin de ses dunes ». C'est intéressant, c'est un article sur les dunes de sable. Les monticules ondulés qui bordent les plages sont bien plus que de gros tas de sable. Ils protègent les côtes contre les tempêtes et l'érosion. Les célèbres dunes côtières qui ont inspiré les paysages de sable dans la planète désertique Arrakis, dans le roman de science-fiction Dune de Frank Herbert, sont menacées par les changements climatiques et l'activité humaine. Comme de nombreuses plages dans le monde, le vaste écosystème sablonneux qui s'étend le long de la côte centrale de l'Oregon est menacé par l'élévation du niveau de la mer et par des tempêtes désormais plus puissantes. Il y a beaucoup d'endroits où les dunes s'érodent alors qu'elles ne s'érodaient pas dans le passé, explique Sally Acker, écologiste côtière et professeure à l'Université d'État de l'Oregon qui étudie les formes de relief. Lorsque les populations construisent jusqu'à leurs limites, perturbent le système complexe du sable, ces dunes peuvent devenir encore plus vulnérables à l'érosion côtière. En tout cas, c'est un article intéressant qui montre comment les dunes peuvent protéger les côtes, justement, de la montée de la mer, protéger l'érosion des côtes. En tout cas, c'est dans le devoir de lundi, le 25 mars. La Terre a besoin de ses dunes. Article intéressant. Alors voilà. Donc, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on va aller discuter avec Mme Nicole Obamsawin.
Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Quand il était haut comme trois pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme, on le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord, il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves. Ou même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques, ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il se passe que j'oblige dans cette forêt parfois agitée. Chercher sa voix, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de page du bilan, l'important sera que tu sois content. Car on fait ce qu'on peut dans la vie, tout dépend de ce qu'on a comme outil. On voudrait tous être aux commandes, mais l'offre est plus petite que la demande. Que l'on soit minus ou géant, il faut être fort pour traverser le temps. Bonne chance.
Alors, c'était les Cowboys fringants, droit devant. Cette semaine, d'ailleurs, on a parlé des Cowboys fringants au prix Juno, qui est comme un peu la disque au Canada anglais. On a eu même un hommage à Cal Tremblay. Je pense qu'ils ont gagné quelques prix aussi au Juno cette semaine. Alors, on va aller voir si Mme Obama-Sawin est avec nous.
Mais oui, bonjour.
Bonjour, Mme Obama-Sawin, ça va bien?
Ben oui, ça va bien.
Vraiment
va
content bien de vous avoir avec nous. Pour nos auditeurs, je voudrais vous présenter. Vous êtes anthropologue, je crois.
Oui, c'est bien ça.
Et vous aussi, ben, comme je disais, de la nation Abénaki. Et vous me disiez tantôt que vous étiez d'ailleurs à Québec, à l'université... pour un événement avec des aînés de Première Nation, c'est-tu ça?
Bien, c'est en plein ça. C'est une invitation qu'on n'a pas pu refuser, une invitation de l'Université Laval qui voulait rencontrer des aînés des différentes communautés autochtones francophones du Québec afin de les aider à structurer l'accueil des Premières Nations à l'Université Laval.
Oh. Puis dans vos travaux en tant qu'anthropologue, vos travaux, ils portent sur quoi exactement?
Multiples facettes. J'ai commencé à m'intéresser davantage à l'Asie au départ, mais disons que... maintenant, dans tous les domaines, aussi bien dans le rôle des femmes autochtones dans la tradition autrefois jusqu'à aujourd'hui, le rôle des femmes aujourd'hui, différents aspects de la culture, en fait. Moi, tout m'intéresse.
OK. Puis,
Pas spécifiquement, ben c'est sûr que quand on parle de spiritualité, par exemple, de philosophie, des premiers peuples. J'ai pas fait vraiment de recherche, mais sur ce sujet-là. Mais je l'ai, je l'ai reçu en héritage. Donc, c'est quelque chose que je partage maintenant volontiers, puis qu'on échange avec d'autres Premières Nations aussi.
C'est plus une question de vécu que d'études formelles. Là.
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr.
Puis, la raison que je vous ai invité cette semaine, c'est que ben nous, en toute simplicité, on parle beaucoup de philosophie et beaucoup de la philosophie occidentale. Puis, j'ai comme cette impression-là, surtout dans l'Antiquité, c'était peut-être moins... ça paraissait moins, disons, que les anciens en Grèce, pour eux, c'était proche, c'était important de... Ils réalisaient qu'on était de la nature, on était dans la nature, on n'était pas séparés de la nature. Mais avec le temps, probablement parce que la philosophie, c'est beaucoup la raison, il y a comme une coupure, on sent que la philosophie occidentale met l'homme à part de la nature. Puis surtout, je vous dis ça par rapport à notre lien aux animaux qui me semble dysfonctionnel. On abat des millions d'animaux sans vraiment réaliser que ce sont des êtres sensibles qui ont une vie. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est, autrement dit, par rapport à la philosophie des Premières Nations, je pense qu'on a un lien un peu plus sain là, par rapport aux animaux et à la nature.
Oui, ben d'ailleurs, une des choses, c'est que pour nous, la nature, ça n'existe pas dans le sens que c'est pas à part. On fait partie du territoire, en fait. Parce que nous, la nature, c'est aussi le territoire. Hein? Ça commence par le territoire. C'est là où on reçoit des enseignements. C'est là où on se sent bien. Et puis, c'est à partir du territoire que ça développe. Là, finalement, on sent qu'on fait partie d'un tout, que c'est pas qu'on n'est pas séparé. Donc, la nature, c'est pas un mot qui existe dans notre pensée, enfin, parce que on est cette nature-là aussi. C'est tout ce qui est vivant, en fait. Tout ce qui est vivant, le lien avec tout ce qui vit, donc pas seulement les animaux, mais aussi les arbres, les plantes, donc l'eau. Donc, tout ça, pour nous, c'est de la vie. Et donc, c'est ce lien-là qu'on entretient avec la vie. Donc, bien sûr, les animaux, que ce soit les oiseaux, les poissons ou encore les animaux qui sont dans la forêt, là.
Ouais.
Donc tout ça fait un tout. On sait, on savait parce que dans les enseignements qu'on a reçus, que tout était lié, en fait. On est lié avec tout ce qui vit. Donc, et puis, ben, pour résumer ça, disons que je fais appel à mon grand-père qui disait que les pierres n'avaient pas besoin de nous pour vivre, que la terre n'avait pas besoin de nous. Mais par contre, les animaux, les plantes, toutes les plantes ont besoin de la pierre pour se développer puis pour se faire. Puis ensuite, les animaux ont besoin des plantes et aussi des pierres. Ben, en fin de compte, les humains, on est ceux qui dépendent le plus de tout ce qui nous entoure. Donc, dans le message qui était donné, c'était que on était les gardiens de la vie, en fait. Gardiens de l'eau, gardiens de la forêt, gardiens du territoire, parce que justement, on dépendait de ce territoire-là pour vivre et pour survivre. Puis aujourd'hui, ben, on a encore besoin de ce territoire-là, même si on ne dépend plus de notre survie physique du territoire aujourd'hui, parce que on a accès à comme tout le monde, à fait compte, au supermarché puis tout ça, mais on dépend toujours de tout ce qui nous entoure, du territoire, pour notre survie culturelle et puis notre survie spirituelle, parce que difficile de vivre connecté quand on est dans une ville ou dans un autre environnement que dans le territoire pour s'apercevoir que vraiment on fait partie de cet univers-là.
Mais j'aime ça quand vous dites qu'on est responsable. C'était peut-être comme l'être humain, il y a quelque chose que les animaux n'ont pas, on pourrait dire, on appelle ça la raison, la capacité de réfléchir. Et c'est peut-être ça pourquoi que la nature, parce que la nature, la vie existait bien avant qu'il y ait des êtres humains, là. Venus, là, nous, là, les êtres humains.
Oui, oui, oui. On est les petits derniers.
Les petits derniers, on vient d'arriver. Mais si la nature a voulu ou la vie a voulu qu'on soit là avec cette capacité-là, c'est justement, à mon avis, peut-être justement d'avoir une sorte de responsabilité d'aider la nature ou de collaborer ou d'être responsable positivement. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que l'intelligence de l'homme a fait que on a abusé de cette capacité-là.
Oui, mais oui, c'est ça. On a dominé la nature. Oui. Dominer la nature, ça ne veut pas dire être avec la nature. Ça veut dire que c'est de faire des choses au-delà de ce que la nature nous fait. On détourne les rivières. On change l'aspect des montagnes parce qu'on fait des carrières. En tout cas, tout ça, ben, on peut pas. Aujourd'hui, c'est difficile de dire, ben là, oui, il faut que les gens survivent parce qu'ils ont besoin de l'économie, puis ça fait tourner l'économie, mais en même temps, c'est des choses qui reviennent pas, là. Ça a pris des milliers d'années à se former, ça. Donc, c'est un questionnement aujourd'hui encore. On en discute encore parce qu'on se dit, ben oui, mais on est dans un temps moderne. Comment on peut réfléchir notre philosophie avec le temps moderne qui, d'abord, on est plus nombreux. L'avantage qu'on avait autrefois, c'est qu'on était éparpillés sur le territoire, puis on était moins nombreux. Donc, on avait dans notre mode de vie plutôt nomade ou semi-nomade, on savait que ben il fallait se déplacer pour faire en sorte que permettre à l'environnement de se refaire. Là. Donc, mais aujourd'hui, c'est pas possible ça. Donc, faut penser autrement, mais il faut penser toujours que c'est les ressources ne sont pas à notre service. C'est nous qui sommes au service de la ressource. Donc, c'est vraiment à l'inverse de longtemps on s'est tu parce qu'on a toujours on nous a vus comme des gens qui empêchaient de tourner en rond. Et puis aujourd'hui, ben on commence à nous écouter, puis il est un peu tard, mais on commence à nous écouter parce que ce lien-là avec la nature, avec, comme vous dites, avec la nature, avec l'environnement, ben c'est notre survie, c'est la survie de l'humanité, là. Hein, quand on parle de. En tout cas. Fait que on pourrait en parler longtemps, mais puis ça, c'est en échangeant avec les aînés, justement, en fin de semaine, ben ça nous a permis aussi de voir que on est tous conscients qu'on vit dans un temps moderne, mais que notre parole maintenant apporte plus. Les gens sont plus à l'écoute de ces paroles-là parce que c'est un besoin de je dirais de sens. Sentir qu'on a un impact et puis qu'on peut agir, qu'on a une autre façon de voir le monde qui nous entoure puis le monde des vivants dont on fait partie.
Oui. Mais il y a aussi ce que des fois je me pose la question. Oui, les Premières Nations, on voit que ça fait partie de la philosophie d'avoir respect pour les animaux. Dernièrement, je voyais un film où ben c'était pour la survie, on chassait le gibier, mais dans le film, on a tué un orignal, mais il y avait comme une cérémonie, on reconnaissait que c'était quand même dramatique de tuer un animal, que cet animal-là probablement avait peut-être une famille ou des il y avait une vie, en tout cas, avec d'autres, là, et c'est une vie qui terminait.
Oui.
Et on n'a pas ça, nous, ça, on réalise des animaux, c'est comme si c'était des... des objets, là.
C'est ça. C'est ce que la chasse c'était nécessaire pour la survie, mais c'est ça. Ça faisait partie du lien qu'on avait avec ce qui nous entoure. On savait que chacun avait son cycle de vie et puis que à un moment donné, même dans certaines nations, puis même, je dirais, la plupart des nations, reconnaissait que c'était l'animal qui se donnait à nous pour nous permettre de survivre.
Ben oui.
Donc, c'était à l'inverse de penser que nous, on s'en va à la chasse sportive, par exemple, et puis même aujourd'hui, je vous dirais que vous verrez pas de chasseurs autochtones avec l'orignal sur le toit puis des photos d'orignal mort. Là.
Ben oui.
Nous, ça, c'est contre notre... ça signifie pour nous un manque de respect envers l'animal qui a donné sa vie pour nous.
Oui.
Là. C'est
ben
ça.
Oui.
C'est même aujourd'hui, même avec les photos aujourd'hui, on est très critique quand on veut passer des chasseurs avec l'orignal sur le dessus de là devant des voitures puis tout ça là.
Ben, c'était des trophées de chasse. Bien souvent, même ils laissaient la carcasse, elle partait juste avec le trophée de chasse. C'est épouvantable.
Ben, en plus, oui. Ben, c'est ça.
C'est
arrivé. Mais malgré qu'aujourd'hui, il y a des chasseurs qui sont très conscients de ça aussi, puis qui sont.
Ouais.
Donc, il y a d'autres façons de faire la chasse, là, quand on. Mais il y a encore des chasseurs sportifs qui font ça, puis qui aiment abattre les bêtes, là.
Ouais.
Puis aujourd'hui, ben les bêtes ont moins, comme je dirais, ils ont moins la chance parce que avec les armes qui sont puissantes aujourd'hui, ben Tu sais, je veux dire, l'animal a aucune chance, là. Tandis que dans la chasse ou la trappe à vent, ben, il y avait quand même la chance c'était pas tous les animaux qui étaient pris. Puis d'ailleurs, on ne prenait que ce qu'on avait besoin. Tu sais, ça, c'était sûr qu'il n'y avait pas de, il devait pas avoir de gaspillage. Gaspiller, ça correspondait à être un péché. Je dirais comme aujourd'hui, on est le Vendredi Saint, là. ça correspondait vraiment à un péché, un sacrilège, là. On devait pas, donc, tout ça, on devait prendre ce qu'on avait besoin. Puis ça, cet équilibre-là, malheureusement, a été un peu inversé quand on a rencontré les Européens qui avaient une autre façon de voir ça. Et puis, ben, surtout dans la chasse, la course pour avoir les fourrures de castor. Là.
Ouais.
Donc,
ouais,
à ce moment-là, les Premières Nations, pour avoir accès aux biens apportés par les Européens, ben, se sont mis à faire de la chasse, puis même, je dirais, de la surchasse, alors que c'était pas du tout dans la façon de penser, mais c'était une nouvelle façon d'assurer la survie autant de la famille que autre chose. Donc, ça veut dire que c'est fragile, l'équilibre, là.
Oui.
C'est fragile, l'équilibre.
Mais est-ce que c'était pas une très bonne pratique? D'ailleurs, les castors ont frisé l'extinction, là. Là, aujourd'hui, heureusement, il y a plus de, on porte plus de chapeau haute forme. Fait que on chasse plus de castors comme avant, puis il semblerait que les castors, ça, c'est une bonne nouvelle écologique, sont en train de revenir, là. Ils sont de plus en plus nombreux et les écologistes reconnaissent l'apport très important pour l'écologie, le rôle des castors pour ce qu'ils font avec leur barrage. Ça a un rôle très utile pour la vie. En tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, qu'on a
Oui. Ben, d'ailleurs, il y a des animaux comme ça qui ont l'exemple, puis ça, c'est pas les Premières Nations, mais tu sais, on a mis un arrêt là pour la chasse, par exemple, aux oiseaux migrateurs. Puis aujourd'hui, ben, il est en grande diminution. Puis aujourd'hui, ben, il y en a beaucoup. Puis il y a des oies blanches aussi, il y en a beaucoup. Donc, c'est possible d'inverser le processus, mais il faut être conscient, puis il faut voir que. Puis des fois, ça prend des lois. Aujourd'hui, on est là. Je veux dire, nous autres, on avait la loi de la vie, hein? Mais aujourd'hui, ça prend des lois, des fois, pour protéger certaines espèces, puis voir à ce que. Parce que chaque espèce, puis c'est ça qu'on disait, nous aussi, comme tout est lié, chaque espèce a son rôle. Et quand on enlève une espèce, ben là, c'est le déséquilibre, là. Parce que chacun a son rôle à jouer, là. Que ça soit du plus petit au plus grand, là. Oui.
Je vous proposerais qu'on fasse une petite pause musicale. On va entendre une chanson de Mme Élise Boucher, qui est aussi de Nation Abénaki. C'est une comptine, mais c'est quand même beau parce que ça parle des traditions là, des Premières Nations. Alors, on prend une petite pause musicale, puis on poursuit notre discussion au retour.
C'est bien. À tout à l'heure.
Anakwika Dodana. Masipskoi Odana. Dmakwane. Damnaza.
En écorce de bouleau, je savais faire un chapeau. Il me protégeait autant de la pluie que du vent du nord et du soleil aussi. En écorce de bouleau, on recouvrait nos abris. On en faisait aussi, avec minutie, des portes bébés, joliment brodées. Même si le temps passe,
passe, on veut que rien ne s'efface. Parle, parle encore, je veux entendre notre histoire. Et l'écorce de bouleau, en plus d'être guérisseuse, devenait un seau, un plat ou une louche, un cône pour la tire dans nos mains ingénieuses. En écorce de bouleau, on fabriquait nos canaux. C'étaient nos autos, elles glissaient sur l'eau. On ramait sans bruit, c'était notre vie. Passe, on veut que rien ne s'efface. Parle, parle encore, je veux apprendre notre histoire. Même si le temps passe, on veut que rien ne s'efface. Parle, parle encore, je veux connaître notre histoire. Mon histoire.
Alors, c'était une pièce de l'album qui s'appelle Toki, N-T-O-K-I, Je me réveille. Ça veut dire Je me réveille, de Madame Élise Boucher, qui est auteure, compositrice et interprète abénakise. Alors, mais c'est ça, on parlait des abus qu'il y a eu, on pense au castor, là. Puis c'est pas nouveau, parce que dans, on l'a dit tout, il y avait, on disait qu'après la glaciation, il y avait une mégafaune en Amérique du Nord, puis on dit que ces animaux géants-là sont tous disparus, les mammouths, etc., et on pense que c'était les hommes qui les ont fait disparaître. C'est pas nouveau que les hommes ont un impact négatif sur la nature.
Pendant la mégafaune, là, je vous dirais.
Oui.
Mais il y a eu probablement aussi des changements climatiques à l'époque qui n'ont pas aidé. Donc, il y a ça aussi, là, tu sais.
Oui.
Faut mettre en, parce que à l'époque justement de la mégafaune, il y en avait peu d'humains, il y en avait, mais il y en avait, puis c'était dispersé sur un immense territoire, là.
Ouais.
Donc je pense qu'il y a eu peut-être, oui, il y aurait eu l'effet de la chasse, j'imagine, parce que cette faune-là était un petit peu mettant en danger la vie humaine, là, je pense. Mais il y avait aussi, il y a eu probablement aussi l'effet des changements climatiques, là, qui a agi aussi. Parce que aujourd'hui, on parle de changement climatique parce que c'est urgent, c'est le réchauffement, etc. Mais il y a eu autrefois aussi des changements climatiques qui a fait varier, qui a fait changer. Les populations se sont déplacées parce que, justement, à cause de ce changement climatique-là qui durait certaines périodes, là, qui pouvait durer peut-être pendant une génération, là.
Oui. Donc, oui, parce qu'il y a eu les glaciers qui ont fondu à cause, justement, du réchauffement climatique, là.
Oui. Puis c'est l'eau a monté, etc., etc. Donc, il y a déjà eu des effets comme ça. Aujourd'hui, ce qui est troublant, c'est de voir que les changements sont à une vitesse qui nous permettent pas, qui vont mettre en danger la vie, en fait, la vie des animaux, mais aussi parce qu'on voit qu'il y a des espèces qui disparaissent, là. Donc, qui disparaissent pas nécessairement par la chasse, mais qui disparaissent aussi à cause des changements climatiques. En parlant de changements climatiques, il y a aussi l'arrivée de nouvelles espèces qu'on connaissait pas, là, qu'on connaît pas, qui arrivent sur le territoire que nous-mêmes, on observe, là, puis qu'on se dit, ben ces animaux-là, ils font pas partie de notre de la connaissance qu'on a de ce territoire-là. Donc, c'est des espèces, des nouvelles espèces qui arrivent, que les grands-parents, les arrière-grands-parents, quand ils ont raconté le territoire, puis qu'ils ont raconté l'histoire des animaux qui vivent autour, ben parlaient pas de ces animaux-là parce qu'ils les connaissaient pas. Et d'ailleurs, c'est souvent ces animaux-là ou ces oiseaux, ou peu importe, les bêtes qui arrivent, qui sont pas connues, ben ont pas de nom, là. On leur a pas donné encore de nom dans nos langues, là. C'est des espèces inconnues sur notre territoire, là.
Ouais, et puis des fois aussi qui transportent des nouvelles maladies qui peuvent affecter
Oui, puis des fois, ils remplacent les plantes indigènes. Par exemple, seulement parler de la phragmite, là, qui est en train d'envahir, là. Les quenouilles sont en train de disparaître. Donc, c'est pas seulement, c'est au niveau aussi des plantes, là, que ça fait disparaître certaines plantes qui sont utiles, qui étaient utiles dans notre pharmacopée, par exemple. Et puis là, on se rend compte que ces plantes-là sont en danger aussi, sont en train de disparaître. Et c'est là qu'on se rend compte que tout est lié, parce que certains animaux vivent à partir de ces plantes-là. Puis que ces plantes-là disparaissent, ben ces animaux-là vont disparaître aussi de notre environnement, là. Donc c'est un peu inquiétant, je vous dirais. Parce que, justement, on a perdu ce lien avec ce qui nous entoure puis avec le vivant, en pensant que nous, on est supérieurs. On n'est pas supérieurs, on dépend de tout ce qui vit autour, là.
Oui, et ça, c'est partout, là. Les changements climatiques, ça entraîne des plantes envahissantes. Ça, c'est sans compter la pollution, les insectes qui disparaissent à vue d'œil parce qu'on a des pesticides. On a une problématique complexe, là. Tantôt, j'en parlais un peu, là. On parle beaucoup des changements climatiques, mais on oublie l'autre dossier qui est aussi grave, qui est la perte de biodiversité.
Oui, mais ça, on sait que si on met des choses en place, il y a le moyen, comme on parlait du castor tout à l'heure, puis il y a certaines espèces de poissons qu'on a fait renaître, là. Donc, c'est possible d'inverser le processus à certains moments si les habitats sont préservés. Donc, puis d'ailleurs, chez les Premières Nations, autant on respecte les aînés qui ont des connaissances, autant on a beaucoup d'espoir mis dans la jeunesse. On a beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. On a plus d'enfants que les Québécois. Et puis, on a beaucoup d'espoir envers cette jeunesse-là. Les gens ont dit, ben là, ça vaut pas la peine de mettre des enfants au monde. Dans quel monde on leur donne, etc. Mais non, il faut faut continuer la vie pour que cette vie-là puisse prospérer. Peut-être que dans nos enfants, puis d'ailleurs, il y a plein de gens qui travaillent aujourd'hui là pour trouver des meilleurs du côté de la science, là, d'améliorer notre sort. Faut juste les écouter, en fait. Mais moi, je me dis que si on encourage aussi la jeunesse avec regarder, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus conscients, les plus jeunes, là. Vous dirais. Et puis, donc, si on leur donne ce qu'il faut, ces gens-là, pas parce qu'ils vont nous sauver, mais en même temps, ils sont beaucoup plus conscients, puis ils peuvent avoir un impact certain sur notre futur, là.
Je pense, les jeunes et les vieux aussi, parce que les jeunes sont plus conscients, mais ils voient pas, ils ont pas été témoins des changements, je pense, entre autres. Juste un exemple que moi, j'ai été témoin, puis que toutes les personnes qui ont un certain âge ont été témoins, c'est la disparition des hirondelles. C'est que quand j'étais jeune, l'hirondelle, c'était pas un oiseau qui était rare, ça. Mais les insectes se nourrissaient d'insectes. Alors, les insectes ont tellement diminué que les hirondelles n'ont plus de nourriture et sont en train de disparaître. Puis il y a beaucoup d'oiseaux comme ça qu'on est en train de perdre.
Oui. Oui, justement, si on parle d'hirondelles, nous autres, on fait des recherches. Là, on a des gens qui travaillent pour ça, le lien avec découvrir les espèces qui sont encore sur notre territoire pour essayer de voir comment on peut protéger leurs habitats. Parce que on peut même parler des insectes qui nourrissent les hirondelles, mais en même temps, nous autres, on parle des hirondelles du rivage. Là, il n'y a plus les rivages pour permettre aux hirondelles de faire leur nid. Donc, il y a ça aussi. Tu sais, il y a la question des... c'est pas seulement la nourriture, mais c'est la question des habitats, très important aussi, parce que chaque habitat... faut protéger chacun des habitats pour permettre aux espèces qui habitent ces habitats-là de pouvoir se reproduire. Mais c'est sûr, nous autres aussi, on les manque, les hirondelles. Oui. Mais on a d'autres oiseaux qui nous arrivent aussi, puis... Ben, en tout cas, on est content des oiseaux qui sont là, puis qui permettent, on se dit, ben, puis il y a des espèces qui sont en progression, donc on voit ça aussi. Donc c'est ça. Donc, on peut parler de ce qui nous manque, de ce qu'on a perdu, mais on peut parler aussi de ce qui arrive et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a là, et pour continuer à protéger ce qu'il y a là, pour rester, nous, les humains, bien vivants.
Mais là-dessus... l'émission est terminée. Ça fait qu'on termine quand même sur une note, je dirais, optimiste, là. On a parlé, par exemple, du castor, puis des jeunes qui sont préoccupés, puis qui sont impliqués dans la protection de la biodiversité. On va espérer que ça continue dans ce sens-là. Ça fait que je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre entrevue aujourd'hui, c'était intéressant. On rajoute un peu là de connaissances à notre parcours en toute simplicité de philosophie et d'écologie. Alors je vous remercie beaucoup, puis peut-être qu'on pourra se vous réinviter une autre fois sur un autre thème concernant cette philosophie là.
C'est bon, mais ça va me faire plaisir de le faire.
Okay.
Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine.
Bien, vous de même, bonne fin de semaine de Pâques à vous et à tout le monde.
Oui, c'est bon. Merci bien. Au revoir.
Bonjour.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Mondes musicaux.